Bonsoir.
Bonsoir à tous, merci d'être venus. Et puis on est là pour une petite rencontre avec Kent, qui a quand même personne qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans un festival de science-fiction finalement. Ton parcours n'est pas tellement lié à la SF, à part récemment, quoi. Puisque tu as été plutôt connu par tes débuts en 77 dans le groupe Sharkshooter, quoi.
Oui, en fait, j'ai croisé la SF deux fois officiellement, c'est-à-dire cette dernière fois avec l'Homme de Mars, et puis la première fois en 77, effectivement, à l'époque de Sharkshooter, parce que j'étais aussi dessinateur de bande dessinée dans Metal Hurlant. Et donc, ma première histoire publiée dans Metal Hurlant était une histoire de science-fiction.
Tu as participé à cette aventure de Metal Hurlant à la fin des années 70 et au début des années 80, en même temps que tu faisais Sharkshooter.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, et de cette aventure sont restés quand même quelques albums de BD qui ont été publiés soit chez Futuropolis, soit aux Humano, mais qui n'étaient pas trop SF dans le sens où ceux qui ont été publiés étaient plutôt des récits d'aventure classiques ou plutôt autobiographiques quand même.
Oui, c'était autobiographique, non. Enfin, si, effectivement, il y a eu un album autobiographique qui s'appelait Ma vie est formidable. Oui, c'est vrai, j'ai oublié.
Ok. Bon, en 82, tu délaisses la BD pour te consacrer plutôt à ta carrière de chanteur solo,
ouais.
Puis à le travail d'écriture pour faire des romans, des livres pour jeunesse. Donc, et de cette expérience-là, que vas-tu retirer finalement ?
Mais c'est pas des expériences que c'est ma vie. Donc on se demande pas ce qu'on retire de sa vie, on vit quoi. Des fois je fais de la musique, des fois je fais des bouquins, des romans, des fois je reviens à la bande dessinée ou je l'abandonne. Et puis tout ça les expériences c'est. Je suis pas dans un laboratoire. Quoi.
Non, je dis expérience de la vie. La vie t'apporte les choses que tu vis. Bon, des fois tu es. Donc.
J'en tire encore aucune conclusion parce que je suis pas encore arrivé à la fin de ma vie. Donc,
d'accord. Voilà. Donc on va dire qu'à cette époque, tu te conseilles un travail d'écriture qui est assez sérieux, qui est vraiment ta passion finalement, puisqu'il se retrouve soit mis en musique, soit mis en roman. Et de cette écriture, tu vas évoluer, à un moment tu vas pencher sur ton nouvel album, celui qui est sorti récemment, L'Homme qui vient de Mars. Et donc de cette écriture, et comment t'es venue cette idée ?
Alors, comment est venue cette idée ? Bon, alors déjà, pour revenir un peu à la science-fiction, pour montrer que je ne suis pas quand même un petit mouton noir au milieu du festival, c'est quand même un genre qui m'a accroché adolescent et auquel je suis resté attaché, quand bien même je prenais certaines distances. C'est-à-dire que le genre littéraire SF, quand j'étais adolescent, m'a nourri complètement, mais vraiment. J'ai lu tous les classiques de l'époque. On en parlait tout à l'heure encore, puis je sais pas, Jean-Pierre Andrevon a disparu, c'est dommage que j'aurais bien voulu lui faire un salut, parce que je lisais ses bouquins quand j'avais 14-15 ans. Et après, je me suis tourné sur la SF en bande dessinée, parce que c'était mon domaine, je rentrais là-dedans, puis la SF au cinéma. Et j'ai toujours eu, finalement... Je me suis peut-être lassé du côté invention. Je trouvais plus l'imaginaire. Peut-être que je lisais pas assez de SF, mais je trouvais plus l'imaginaire suffisamment foisonnant en science-fiction à un moment donné. Donc j'ai un peu abandonné. Mais c'est toujours resté en arrière-plan. Et il y avait toujours cette idée. Dès que j'entendais parler de planètes ou d'espace ou de vaisseaux spatiaux, je décolle, je peux parler ça au présent. Donc à un moment donné, quand je me suis mis à écrire des nouvelles chansons, donc il y a un an ou deux, j'ai écrit une chanson qui prenait au pied de la lettre l'expression « je me sens martien » quand on se sent étranger dans un lieu. Par exemple, c'est peut-être le cas en ce moment qu'on est en train de parler de science-fiction, alors que je me sens comme une pièce rapportée. Donc je me sens un peu martien dans le festival de science-fiction.
T'es à ta place là.
Mais bon, il y a plein de fois où ça se passe comme ça, dans des soirées ou en société, où on se sent martien. Voilà. Et j'ai écrit une chanson là-dessus, puis je prenais au pied de la lettre. La chanson s'appelait Planète Mars. Et ça décrit le monde qui autour de soi et se dire je fais pas partie de ce monde. Et dans le refrain, c'est je suis l'homme venu d'ailleurs, je viens de la planète Mars. La chanson en fait a commencé à faire boule de neige. J'ai écrit une seconde chanson qui tournait encore autour du thème de l'espace et tout ça. Et puis une troisième. Et là, je me suis dit bon, il y a quelque chose qui se passe. C'est toute une histoire que j'ai envie de raconter autour de ça, quoi. Mais c'était la science-fiction devenait le prétexte pour faire un zadig interstellaire, en quelque sorte. J'avais envie de continuer à parler de ce que je fais habituellement dans mes chansons, c'est-à-dire de parler de notre environnement, l'environnement humain, mais avec non plus avec la loupe, mais avec un télescope vu de plus loin. Et j'ai inventé l'homme de Mars.
T'as inventé l'homme de Mars, donc tu reprends des thèmes qu'on retrouvait dans tes albums précédents, des thèmes qu'on a trouvés dans tes romans, et tu inventes ce personnage finalement qui se dit que sa planète rouge, elle lui plaît pas, qu'il a envie de découvrir une autre planète qui s'appelle la planète bleue, sur laquelle il y a des gens, il y a des personnages belliqueux, puis il s'en va, il arrive sur Terre. Et donc quand il arrive sur Terre, qu'est-ce qu'il découvre finalement?
Il découvre déjà de comment. L'énergie, l'enthousiasme. C'est, en fait, mon martien, c'est un peu comme le provincial qui vit à la campagne et qui va dans la grande ville. Voilà. Ou l'adolescent qui joue dans son jardin et qui veut aller voir de l'autre côté du mur ce qui se passe dans la boîte de nuit. C'est ça aussi. C'est un truc, c'est de se dire, bon, sortir d'une certaine. D'un monde qu'on connaît pour voir ailleurs quelque chose qui nous paraît plus excitant parce que plus loin, parce que plus bruyant, parce que plus coloré, ou je sais pas quoi. Et donc il arrive sur Terre, il croise les terriens, il se fait une idée de notre vie, comme on peut se faire nous, finalement, je sais pas, pour les gens qui voyagent, la première fois où je suis arrivé à New York, je suis arrivé dans cette ville dont je me faisais toute une idée en me disant c'est formidable, il y a de la vie, c'est génial, ça bouge et tout, c'est extraordinaire. Et puis quand on y retourne, au fil du temps, on s'aperçoit que c'est une ville géniale, ok, mais qu'est-ce que les gens bossent? Si ça bouge, c'est parce que les gens bossent et qu'ils sont obligés de bosser pour vivre. Donc c'est pas si drôle que ça, quoi. Et bon, c'est son cheminement, en fait, par rapport à nos rapports humains, c'est ça. Au départ, il les voit comme étant un choix. Alors qu'en fait, et petit à petit, il se rend compte qu'on est très limité dans nos rapports humains, quoi. C'est un peu même bestiaux.
Donc on se rend compte de cette préoccupation. Donc l'album, comment dire, le livre qui a été édité par Actes Sud est un, comment dire, on peut dire un album concept. C'est où il y a d'abord le disque au départ.
Oui.
Disque que tu as fait qui comporte 15 chansons plus des petites. Un prologue, plusieurs parties. Mais. Après, l'idée de le mettre en BD, de faire un livre et d'en faire un ensemble finalement qui est presque indissociable l'un de l'autre, ouais. Elle est venue comment cette idée de faire cet objet concept qui est quand même assez, pas, je ne vais pas dire curieux, mais assez, un peu un ovni dans le paysage du disque et dans le paysage du livre. Parce que je vais parler plus de livre que de BD, parce que pour moi c'est d'abord un livre, même si le récit intérieur, on parlera plus tard de la forme.
Mais on le trouve plus facilement dans les librairies conventionnelles que dans les librairies de bande dessinée aussi. C'est quelque chose, je ne sais pas de quoi s'y lier, ma barbe peut-être, je ne fais pas trop
dessiner de bande dessinée. Plus à l'éditeur, je dirais.
Oui, c'est ça. Et le concept en fait est né encore une fois de cette fameuse boule de neige, de ces chansons qui se multiplient. Et qui crée une histoire. À partir du moment où il y avait toute une histoire, et l'invention du personnage qui regarde les terriens de loin, en tant que graphiste, le graphiste est intervenu à ce moment-là, et je me suis dit, mais il faut que je le dessine, ce bonhomme. La couverture, il faut que je la dessine. Et puis pourquoi je n'illustrerai pas non plus chaque chanson? Mais donc j'ai commencé à faire des peintures illustrant les chansons. Et puis inventer donc la tête de l'homme de Mars comme ça. Et je me suis beaucoup inspiré de l'esthétique années 50-60 de la SF parce que le martien n'existe qu'à cette époque-là. Aujourd'hui, le martien n'existe plus. S'il existe, c'est une amibe ou c'est une bactérie ou on n'en sait rien, un microbe. Donc c'est pas très sexy à dessiner. Donc, je me suis replongé dans l'idée du martien humanoïde auquel on croyait dans les années 50-60 et j'ai repris le style de cette époque un peu.
Oui, il y a plus. Maintenant, dans le martien, il n'y a plus rien qui fait peur ou qui plaît. C'est plus un personnage emblématique de la SF.
Il n'y a pas d'identification.
Voilà,
en tout cas.
Donc, ce qui est intéressant et la forme qu'a pris ce livre, c'est que tu l'as découpé en. Il y a 15 chansons, donc 15 épisodes, qui sont tous des récits publiés sous la forme de magazines. oui. avec une couverture, chacun avec 6 pages. Donc, tu as une contrainte de bande dessinée. Et ces magazines sont chacun un épisode de la vie de ce Martien sur Terre qui va donner une chanson, qui va donner aussi une histoire. Et ce qui est intéressant dedans, c'est que tu l'as fait un peu à la manière des magazines des années 50 ou des pulps ou des trucs comme ça. Je vais donner un exemple parce qu'on va montrer la une couverture de magazine pour que les gens comprennent
bien. Oui, oui, oui. Bon, on peut ouvrir là aussi. Ah, moi aussi, je monte de mon côté. Regarde, moi le premier. Voilà. C'est très beau, évidemment. Celle-ci... j'ai commencé par ça, j'ai commencé par ces illustrations. Je n'avais pas encore en tête de faire tout le bouquin. Je me suis dit, je vais faire un beau livret luxueux de CD avec ces dessins couleurs. Et puis je me suis emballé, en fait. J'ai eu envie d'aller plus loin, de faire des dessins en noir et blanc, dans un style très expressionniste. Et puis, à partir du moment où j'ai eu envie d'aller plus loin, je suis allé voir Actes Sud. L'éditeur, et qui m'a encore embringué dans un projet beaucoup plus vaste que j'imaginais, parce que je pensais pas faire 72 pages, quoi, vraiment.
Donc c'est quand même déjà un beau travail. Bon, mais cette idée de faire du noir et blanc dans une époque où beaucoup de BD, enfin dans la bande dessinée quand même, c'est quand même les albums couleurs qui priment, là, enfin, on connaît le formatage, 44 pages, cette idée de faire du noir et blanc, très noir, très blanc, très expressionniste, ça donne un côté, comment dire, très intéressant cette histoire, c'est-à-dire que ça la décale un peu, et on rentre très, très vite dans cette histoire, dans les personnages, ça permet de les styliser énormément.
J'ai toujours préféré le noir et blanc à la couleur, parce que dans le noir et blanc, on va à l'essentiel, mais même en photo, même en film, on ne se perd pas dans la couleur d'une chemise ou la mosaïque d'une cuisine. Quand on tourne une scène en noir et blanc, ou quand on voit tout ce qui est en noir et blanc, on s'attache vraiment aux valeurs soit graphiques du dessin, soit au jeu du comédien, soit à ses traits, et c'est tout. Sinon, on se perd vite dans... J'aimerais bien vivre dans un monde en noir et blanc, en fait. Je crois que ce serait... peut-être qu'on se comprendrait mieux. On serait moins distrait.
C'est pas une mauvaise idée. Donc, ce noir et blanc, et puis cette contrainte des 6 pages, parce que tu as 6 pages pour chaque histoire, pour chaque épisode, je veux dire, de l'histoire, parce que c'est un album qu'on pourrait comparer un peu à un petit opéra rock, pop, quelque chose comme ça.
Oui, un peu.
À la manière du Tommy Dee Woo, ou des choses comme ça.
Mais ça c'est ce genre de concept album, c'est quelque chose qui se fait plus trop en ce moment. Donc, les références sont années 70. Là, on avait l'audace de faire ça. Il y a eu des précédents, évidemment, qui étaient plutôt bien. Il y a eu des grosses tartes à la crème qui étaient nulles aussi.
Oui,
et malheureusement, on retient surtout ça, quoi. Alors que, évidemment, c'est en référence directe à ce qu'on connaît dans le rock, et notamment Ziggy Stardust and the Spider from Mars, puisqu'il y a le mot Mars dedans. Mais c'est le côté martien qui me rapproche de ça, quoi. Après, la façon d'envisager l'orchestration et tout, c'est plus filmique, encore une fois. Je travaille avec Fred Palem, qui fait aussi des musiques de film, qui est le leader du big band, le Sacre du Tympan, et qui avec qui on s'est vraiment éclaté à créer des arrangements pour grand orchestre et cuivre.
Oui, donc c'est vrai, quand on écoute l'album, que toi qui étais habitué à une musique qui était plus proche du rock ou de la pop traditionnelle, avec des orchestrations, je ne vais pas dire simples, mais pas vraiment beaucoup d'instruments, à part guitare, basse, batterie, clavier, les classiques. Là, on sent quand même dans pas mal d'albums des choses qui sont très simples, mais des choses qui sont quand même beaucoup plus réfléchies, plus construites, et qui vont plutôt vers des musiques qui sont proches des musiques de films. On va penser à des gens comme Lalo Schifrin.
Oui, voilà, Lalo Schifrin, tout à fait.
Les grands, musiciens qui ont fait d'Hollywood des années 60 ou 70, quoi. Alors, toi, comment tu as vécu ça? Parce que j'imagine que mettre des violons, mettre des cuivres dans ta musique, est-ce que ça t'a posé des problèmes au niveau composition, finalement?
Non.
Parce que... Attends, je vais finir.
Je te laisse finir.
Parce que, bon, voilà, écrire les chansons, faire les BD, mais tes musiques traditionnelles, comment tu as pu les faire évoluer? Et puis essayer de les imaginer avec une dimension qui t'était pas forcément familière, quoi.
Bah, ça s'est pas passé comme ça. J'ai d'abord écrit toute l'histoire et toutes les chansons, et maquetté toutes ces chansons chez moi, dans un style, on va dire, rock. Et une fois que j'ai tout vu, que j'ai écouté de bout en bout avec l'épilogue, le prologue, l'épilogue et tout le découpage, les textes parlés entre les chansons, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, c'est vachement terre à terre, pour un sujet spatial, ça marche pas, quoi. Le son des guitares électriques, là, la batterie, il y a quelque chose qui manque ou il y a quelque chose qui va pas. Et je m'en suis confié à mon ingénieur du son avec qui j'allais travailler, avec qui je travaillais déjà auparavant, et avec Fred Palem aussi, qui était bassiste avec moi auparavant, mais qui est donc aussi arrangeur. Et eux m'ont dit, mais si c'est une histoire, on n'a qu'à faire comme si c'était une musique de film, avec les arrangements et les cordes et tout ça. Et j'ai dit, bah oui, j'osais pas proposer ça parce que je trouvais ça prétentieux. Si c'était venu de moi, je trouvais ça prétentieux. À partir du moment où ça vient de quelqu'un d'autre, ça devient ambitieux, quoi. Il y a une grande différence. Et on a plongé là-dedans. Et on est parti dans ces arrangements-là. Et là, j'ai laissé vraiment beaucoup de liberté à Fred Palem, qui est parfois a complètement réarrangé un titre ou des titres qu'il a déstructurés pour pouvoir faire ses arrangements d'orchestre. Et moi, je me suis moi-même plié une discipline de chanteur du genre, quoi. Parce qu'il y a des morceaux où j'ai chanté comme jamais j'avais chanté auparavant. Pour que ça sonne.
Ah ouais, d'accord, t'as dû faire évoluer ta voix, ta manière
absolument.
De chanter.
Ouais, absolument, on devient comédien dans ces cas-là, et c'était le but d'ailleurs. Et en fait, après, tous les arrangements du disque, quand on écoute, les arrangements, je dirais, fastueux avec les cordes, c'est au début et à la fin, c'est-à-dire c'est quand il s'agit quand c'est le martien qui arrive et qui repart, les cordes suggèrent l'espace. Et plus il avance, plus il approche enfin, une fois qu'il est sur Terre, plus il devient terrien, parce qu'à un moment donné, il le devient. Oui, plus il devient terrien, plus les morceaux deviennent basiques et rock, avec plus guitare, basse, batterie.
On se rend bien compte de cette évolution quand on écoute l'album.
À la fin, quand il se barre, s'enfuit, on repart avec les violons, comme ça.
Donc, il y a des techniques, finalement, ce que je voulais essayer de voir. Comment dire, on se pose toujours la question de la musique de science-fiction, on va l'aborder, là. Parce que la musique de science-fiction, elle n'existe pas en elle-même, finalement.
Non,
elle n'existe pas. Il n'y a que des formes de représentation de cette musique qui viennent peut-être des films, je ne sais pas d'où elles viennent, quoi. Mais c'est assez curieux, parce que, bon, on peut faire des livres, plein de choses, mais il n'y a pas de science-fiction musique réelle, quoi.
Pour moi, la musique de science-fiction, elle est plus dans la musique contemporaine. Elle est synonyme à chaque fois. Bon, c'est parce que c'est un film qui m'a marqué quand je l'ai vu, parce que j'étais très jeune. C'est l'Odyssée de l'espace, où Stanley Kubrick est allé chercher, bon, effectivement, des œuvres classiques, oui. Anciennes, mais aussi Ligeti. Avec tous ces morceaux à voix, comme ça, dissonants et tout. Pour moi, c'est ça la musique dans science-fiction. Et aussi les premiers synthétiseurs avec des sons
comme ça.
Évidemment, quoi. Là, il y en a aussi.
Il y en a un petit peu.
On s'est beaucoup amusé avec ça.
Donc, quand tu fais cet album, après, cet album a un côté intéressant au niveau de l'édition, il a un concept parce que. La jaquette telle qu'on la voit, d'habitude une jaquette pour un livre c'est quelque chose qui sert à le protéger, à le ranger, alors que cette jaquette est un peu un objet un peu à la manière de l'américain Chris Ware pour ceux qui connaissent, et elle a la particularité de se développer, de se déplier, et puis tous les textes des chansons sont mis sur les rabats, quoi. Donc ça permet de les suivre, il y a ce dessin, et puis même cette couverture noir et blanc, et donc avec l'éditeur tu as eu un travail quand même assez intéressant pour donner à ce livre quelque chose, une qui soit un peu ovni, un peu curieux et atypique dans le monde de l'édition en général, quoi.
Bah, c'est-à-dire que le directeur de la collection, il s'est lui aussi laissé emporter par le projet. Il y a beaucoup de choses auxquelles j'avais pas pensé. La jaquette américaine, la couverture dissociée en noir et blanc et tout ça vient de lui. Il s'est emballé complètement là-dessus, à ma grande joie d'ailleurs.
J'imagine, ouais.
Parce que la collection Actes Sud, elle n'est pas comme ça. C'est des livres souples.
Plutôt souples, voilà. D'un format plus classique.
Ouais, et donc on est parti là-dessus. Moi, j'étais ravi. Allons-y, quoi.
Non, c'est vrai que l'objet est magnifique. Il est vraiment très, très beau, ouais. Donc, écoute, puisqu'on a parlé musique, on a parlé de pas mal de choses. Tu veux faire nous chanter une ou deux chansons là pour la maintenant?
Je vais chanter des extraits. Alors évidemment sans violon et sans cuivre, okay. Parce que c'est difficile à faire les cuivres en chantant.
Non, moi je m'y risquerais
pas. Si tu veux faire la batterie, par contre.
Merci. Donc.
Très bien ta guitare, très bien.
Merci beaucoup. Donc, on a marché sur la Terre. Donc, c'est à propos de ce titre, on va parler un peu de tes influences graphiques, parce que tu en as eu, évidemment. Bon, on a marché sur la Terre, évidemment, ça fait penser à Hergé, mais il y a autre chose. Aussi, Hergé, beaucoup, je crois, quand même, parce que tes chansons sont signées K. Kokenstock.
Oui,
ouais, ouais. Donc, peut-être parler de ce bonhomme qui t'a marqué un peu, non ?
Ouais, en fait, c'est plus ce qu'il a fait qui m'a marqué que, oui, bien que sûr, le bonhomme, évidemment.
Oui,
parce qu'il y a eu des rencontres, par exemple... Pour revenir à la SF, encore une fois, un des premiers dessinateurs que je suis allé rencontrer quand j'ai commencé dans la bande dessinée, c'était Philippe Drouillet. Parce que j'admirais ce qu'il faisait, comme tout gamin de 15 ans qui a découvert Drouillet dans Pilote. Et j'ai voulu le rencontrer un jour, parce que j'étais à Paris. Et il m'a ouvert sa porte comme ça, quoi. Et j'ai découvert son univers. Je voulais dessiner comme lui, je me suis rendu compte que j'étais incapable. Donc je me suis retourné du côté d'Hergé, où là, finalement, c'était beaucoup plus simple, au bout du compte, quoi. Et c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que Drouillet, je l'ai revu il y a un mois de ça, un festival de bande dessinée. Moi, je dis ça, parce que finalement, c'est ma vie, je ne vais pas raconter ma vie, ça n'a rien à voir.
Si, tu peux.
Non, c'est pas intéressant, on a bu des coups, on va manger ensemble, enfin bon, voilà, quoi.
Ouais, d'accord. Donc, ces influences graphiques de Drouillet, Moebius, et puis après, bon, enfin, on peut sentir Moebius, mais t'en as d'autres vraiment qui t'ont marqué, à part ces deux, trois-là ?
Oui, non, puisque c'est le noir et blanc qui m'intéressait, il y a Moebius côté Gir, côté Blueberry, qui m'a influencé, il y a eu Hugo Pratt à cette époque-là, il y a eu toute l'école américaine que j'ai découvert sur le tard aussi, des Milton Caniff et compagnie, mais ce qui est marrant, c'est que c'est des gens qui m'ont influencé quand je faisais la bande dessinée, j'allais dire presque sérieusement, à mes débuts, quoi, où je cherchais les maîtres pour les égaler. Et puis, comme j'ai arrêté la bande dessinée pendant 20 ans, plus de 20 ans, j'ai continué à dessiner comme ça, mais je ne pensais pas à refaire d'album. Et encore une fois, l'idée est venue avec cet homme de Mars qui a été un prétexte à m'y remettre, je dirais. Et là, quand j'ai repris le dessin, j'avais complètement oublié ces histoires d'influence. J'avais en tête de faire quelque chose de très expressionniste, donc c'était plus trop des maîtres de la bande dessinée vers lesquels je me suis tourné. J'étais plus dans les dessinateurs allemands de l'expressionniste ou surtout Franz Masrel, qui est pas du tout dessinateur de bande dessinée, qui était un graveur sur bois des années je crois 20-30, qui a fait un travail formidable. C'était vraiment l'histoire d'aplat noir et blanc qui m'intéressait, encore une fois, pour aller à l'essentiel, quoi.
Ouais, pour trouver ce contraste qu'on trouve sur l'album. Mais la question que je me pose, et peut-être qu'on se pose, c'est que tu as abandonné, pas abandonné, mais tu as délaissé la bande dessinée pendant 20 ans, et puis finalement tu y es revenu. Pour quelle raison ? Parce que, comment dire, bon, tu écris, tu sais écrire, il n'y a pas de. Bon, pour beaucoup de gens, souvent le summum, c'est d'écrire, de faire un roman, et toi, finalement, tu passes de la musique au roman, tu reviens à la bande dessinée. C'est, comment dire, des envies, des pulsions ou des nécessités par rapport à ce que tu as à dire ?
Bah, c'est tout pareil. En fait, il n'y a pas un genre plus difficile que l'autre. Il y a un genre qui se prête plus à certains, à une manière de raconter les choses. Quand on est dans l'émotion et le symbolique, je trouve que la chanson est facile pour ça. Enfin, je me sers de la chanson pour comme ça. Après, le roman, c'est plus pour approfondir des caractères de personnages, pour décrire des environnements. Mais même ça, parler comme ça, je trouve que c'est déjà vachement rébarbatif par rapport à l'envie. J'ai juste, il y a une histoire qui me traverse la tête et je la tourne comme ça, je la touille dans ma tête et je me dis... Ah, elle sera bien en roman, ou elle sera bien en dessin, ou elle sera bien. Voilà, c'est l'idée qui me.
Finalement, c'est l'histoire.
C'est l'idée qui propose le
support,
le moyen. Voilà,
ouais, ouais. Le média sur lequel tu vas travailler. Ouais. Quoi. D'accord. Dans la chanson On a marché sur la Terre, tu parles des sous-sols de l'ASF,
ouais,
et de cosmonautes SDF, quand même. Qu'est-ce que tu vois dans les sous-sols de l'ASF ? Bon, on imagine bien que les gens les ont perdu leurs illusions dedans, quoi. Mais pourquoi quelque chose d'aussi, un peu désespéré quand même quand tu dis ça par rapport au monde que tu décris, quoi.
L'ASF, c'est marrant de parler de ça comme ça dans un lieu où un festival qui lui est consacré, mais l'ASF, elle, c'est pas ce qui fait rêver la majorité des gens, et c'est ça que je trouve triste. C'est-à-dire que, comme je disais, ado, et puis même encore maintenant, quand je lis Spin de Charles Whitson, moi, je pars, quoi. Je pars dans des futurs possibles. Aujourd'hui, quand je lisais encore de la SF dans les années 70, il y avait des futurs possibles. Il y avait des futurs impossibles, puis des futurs possibles. Il y avait des apocalypses, mais il y avait aussi des ouvertures sur la conquête de l'espace, sur des choses comme ça, sur des mondes parallèles. Plus le monde a avancé, plus je me suis rendu compte qu'on s'en branlait de ça, en fait. Je pensais vraiment que la SF allait prendre une place majeure dans l'imaginaire mondial, et en fait, ça intéresse juste quelques rêveurs, et on est rentré dans un monde matériel et pragmatique, on le sait, quoi. Où finalement, on préfère consacrer de l'argent et de l'énergie à essayer de vendre des t-shirts plutôt qu'à construire des fusées, par exemple. Donc la chanson parle de ça, c'est-à-dire qu'on s'est détourné de futur possible et utopique à un présent matériel.
Ouais, c'est un peu les rêves de notre génération, parce qu'on a à peu près le même âge, de ces gens des années 70 qui ont rêvé de construire un monde un peu meilleur, et on se rend compte 30 ans plus tard que, bon, finalement, ça ne s'est pas passé.
Et puis peut-être aussi, de par la connaissance, on sait maintenant que sortir une fusée de l'atmosphère, c'est lourd, c'est cher, ça coûte temps et tout, et que pour aller jusque sur Mars, c'est une aventure extrêmement périlleuse, alors que... À part quelques savants dans les années 70, tout le monde pensait que c'était parfaitement faisable. Et là, bon, voilà, on se retrouve sur cette planète qui est de plus en plus peuplée, avec des gens à nourrir, et puis avec cette fuite, je pourrais dire, quoi.
Ouais. Donc dans cette histoire, notre martien qui vient nous visiter là, dresse un constat quand même assez désabusé de la Terre, quoi, de cette planète qu'il pensait quand même découvrir quelque chose, acquérir quelque chose, et repartir. À un moment, il dit il faut que je reparte. Et quand il repart chez lui, qu'est-ce qu'il pense finalement?
C'est courage fuyant, c'est l'éloge de la
fuite,
ouais. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, bah, finalement, non, ce monde matérialiste n'est pas le mien. Je préfère rester dans un monde de rêve plutôt que dans un monde de...
Il préfère garder son rêve plutôt que de garder
retourner dans un monde contemplatif plutôt que dans un monde peut-être extrêmement terre-à-terre, encore une fois, sans jeu de mots.
Oui, vraiment.
Je crois que c'est ça. Mais bon, c'est peut-être aussi comme ça que je vis, ou que beaucoup de gens vivent ici, de par le fait qu'ils sont à ce festival. On va chercher dans l'imaginaire des choses que le présent ne nous donne pas.
Ouais. On va peut-être déborder un peu de ça, parce que actuellement, bon, on parlait de la SF qui a créé des rêves qui ne sont pas arrivés, alors que beaucoup de jeunes générations maintenant, à travers le jeu de rôle et la fantasy et tout ça, sont partis suivre. Est-ce qu'on a l'impression qu'ils suivent un peu le même chemin, qu'ils vont dans des mondes différents, mais sur des médias un peu différents, enfin sur les mêmes médias, mais avec des contenus qui sont plus issus de contes, légendes et traditions, quoi? Est-ce que tu as suivi ça ou pas? Je te pose cette question comme ça, parce que
je trouve qu'on est rentré dans les dans tous les genres, quels qu'ils soient, on est rentré dans des poncifs aujourd'hui, quoi. Parce que on essaye d'appliquer les personnes qui vendent ces genres et tout ça, et essayent d'en vendre le maximum. Donc on applique des recettes de vente, et qui souvent sont basées sur des poncifs. Qu'est-ce qui plaît le plus? C'est ça. Donc on va fournir, on va donner ça. Et ça, c'est une limite à l'intelligence et à l'imagination. Et je sais que, par exemple, j'ai du mal avec les jeux, parce que un jeu vidéo, c'est l'imaginaire de quelqu'un d'autre qui nous est imposé. Et quand on gagne ou quand on perd, c'est programmé pour qu'on gagne ou pour qu'on perde. Alors que lire un livre avec des mots, les mots ont des sens différents. Quand on dit une planète jaune, comme ça, pour 10 personnes, elle va pas être jaune de la même manière, elle va pas être, elle va pas avoir la même forme et tout. Et là, c'est notre imaginaire qui travaille. Et je n'aime pas ce côté passif du monde d'aujourd'hui où on est, où on nous donne du pré-mâché en fait. Un jeu, c'est un peu comme, c'est comme la cuisine toute faite.
La cuisine que tu mets au micro-ondes. Quoi.
Voilà, on la met au micro-ondes et on mange et c'est vachement bien, ça nourrit, ok, mais c'est pas nous qui l'avons fait. C'est ça qui m'embête, qui me turlupine là-dessus. Et j'ai des grandes discussions avec mon gamin là-dessus. Ça n'a pas l'air de troubler plus que ça. Il dit ouais, t'as raison. Puis il retourne à sa console. Bon,
ouais. C'est pas un phénomène générationnel.
Peut-être. Oui, probablement. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'on pouvait nous dire la même chose de la bande dessinée.
Oui, quand on
a démarré,
disait,
évidemment.
Oui, quand les gens lisaient de la BD, ils disaient que c'était pas des mots, c'était pas. On a eu ce débat pendant des années. Ouais.
Mais c'est d'ailleurs pour ça, pour en revenir à l'homme de Mars, que toutes les histoires sont très elliptiques. Elles suivent très peu les paroles de chansons. Elles ne collent pas aux paroles de chansons, elles se barrent.
Ah non, c'est une illustration, ouais. C'est une autre manière de raconter la chanson par un travail sur le dessin et la mise en scène, bien sûr.
En agissant comme ça, je me dis, c'est pour que le lecteur, quand il se dise aussi, bah, moi je peux imaginer autre chose à ma manière. Quoi.
Ouais, toi qui as réussi à faire, comment dire, à partir d'un disque et faire ta bande dessinée d'après ça, que penses-tu de ces ouvrages qui sortent, les chansons de machin, les chansons de trucs, mise en BD, tu as vu ces liens?
Ah oui.
Que penses-tu de ça qui font, je dis pas moi, que penses-tu de ce genre de travail? Parce qu'en général, on prend les chansons d'un auteur et on confie ça à différents dessinateurs qui illustrent chacun la chanson qu'il aime. Quoi.
Bah, si ça les inspire, c'est bien. Si c'est une commande pour vendre un objet, c'est moins bien, mais si ça les inspire, c'est bien. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Non, c'est bien. Je sais pas, ça existe. Puis voilà, on ne va pas s'empêcher que les choses existent.
Non, je ne veux pas dire ça. Mais je pensais que toi, parce que tu as fait un travail quand même complètement différent, un travail de création à partir de tes chansons. Quoi. Un peu différent. Bon, mais écoute, on va peut-être arriver à la conclusion. Tu as un petit mot de conclusion à dire ou tu conclus par une chanson?
Tous au bar.
tu conclus par une chanson peut-être?
Oui, bah, ouais, si je vais essayer de me rappeler de la planète Mars. Là,
parce que bon, elle est quand même bienvenue maintenant. On va y aller, puisque le Martien est reparti.
De moi.
Merci beaucoup, parce que c'est le fait que tu chantes, c'était pas prévu. Merci d'avoir accepté, d'être prêté à ce petit jeu.
Ouais, c'est amusant. Puis au moins, comme on parle de musique.
Ouais. Oui, quand on parle musique, il faut quand même bien l'illustrer. Quoi. Voilà, on va dire bonsoir au public.
Bonsoir public.
On va y aller. Merci.
Merci.